On est dans la lettre 27.
La lettre 27 de Edmour Azaken, Igaret HaKodesh. Donc, pour moi, je suis toujours dans le thème de Gimel Tammuz. Le thème de la Hiloula. On a expliqué que la lettre numéro 27, c'est une lettre que l'Edmour Azaken a adressée aux Chassidim pour les consoler après le départ de Rabbi Menachem Mendel de Horodok. C'était la semaine dernière ?
Oui.
Donc, c'était pour les consoler après le départ de Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Rabbi Menachem Mendel de Horodok était le remplaçant du Magui de Meserich. Et donc, c'était une figure très respectée dans le monde du chassidisme. Et malheureusement, il a beaucoup souffert dans sa vie, surtout avec les marloquettes qu'il y avait à cette époque-là. Donc, il est parti de ce monde. Et c'était très dur pour les chassidim, parce que c'était très dur. Déjà, on était opprimés. Il y avait beaucoup de gens qui les embêtaient. Il y avait beaucoup de gens, enfin, il y avait beaucoup de problèmes de tous les sens, de la Russie, de beaucoup de problèmes. Et en plus, quand dans un moment comme ça, on perd son maître, c'est très difficile. C'est dur. Alors, à ce moment-là, il aura écrit une lettre pour les consoler. Le thème de cette lettre, on a commencé la semaine dernière, en fait, ce qu'il veut leur expliquer, c'est que le sens principal de la vie d'un tzadik, c'est quoi? C'est la vie spirituelle. D'accord? Et donc, du coup, ce qu'il va leur dire, en fait, le thème, et c'est ce qu'on a développé la semaine dernière pendant une heure et demie, ce qu'il va leur dire, il va leur dire, vous dire qu'il ne s'est rien passé, je ne peux pas vous dire. Parce qu'on peut, bien sûr qu'il s'est passé quelque chose, et on ne le voit plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le tzadik est aussi disponible qu'avant, et peut-être même plus. Et on a expliqué pourquoi. On a dit parce qu'avant, le tzadik était limité avec son corps. Ça veut dire qu'il y a des moments où il dort, des moments où il mange, des moments où il est limité. Alors que lorsqu'un tzadik part chez Hachem, à ce moment-là, le tzadik il continue à rester attaché à ceux qu'il appelle en bas, et encore plus à ceux qui l'ont connu avant, parce qu'ils sont prioritaires. Et le tzadik continue à s'occuper d'eux sans limite. Seulement, le seul problème, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir la emouna. Il faut avoir la emouna que c'est comme ça. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est très dur. Il faut avoir la emouna que rien n'a changé. C'est très difficile, parce que ça, tu peux le faire quand t'es fort. Mais quand c'est des moments difficiles, où tu sens qu'il n'y a rien, d'accord? Tu sens, tu demandes, il n'y a rien. C'est très difficile. Mais vous savez, chez Chassidim, on dit que ça arrivait aussi, même quand on voyait le rabbi, des fois, des gens qui envoyaient des lettres au rabbi, le rabbi ne répondait pas. Alors, tu avais des gens qui disaient, si le rabbi ne répond pas, c'est que, bah, comme l'histoire qu'on a racontée le Shabbat, d'accord, avec le Tania, on a de fabriquer une petite Tania de poche, là. D'accord, bon, je ne vais pas la répéter, c'est une longue histoire. Mais, des fois, le rabbi ne répondait pas. Alors, soit les gens qui attendaient une réponse, qui disaient, ah, si j'ai pas de réponse, je suis pas tranquille. Et les chassidim, ils apprenaient à comprendre que si le rabbi n'a pas répondu, c'est que la non-réponse est elle-même une réponse. Parce que le rabbi lisait toutes ses lettres. Il y avait des lettres qui répondaient, des lettres qui répondaient pas. La majorité répondait. Il y avait des lettres, des fois, que, il y a des choses que le rabbi laissait passer le temps, mais il donnait une bracha sans répondre avec un courrier. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la même chose, que même si on ne peut pas recevoir de réponse, bon, on peut dire que j'ai reçu une réponse qui vient de 7-17 ans par quoi, mais on est persuadé que le rabbi continue à être là. Bien que c'est pas facile à le penser, mais on continue à le penser. Alors après, il a commencé à développer l'Admor Hazaken. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière? On a dit quels sont les trois points principaux de la vie d'un tzadik. Qu'est-ce qui forme la vie d'un tzaddik? Trois choses. Qui continuent à exister même lorsque le tzaddik part de ce monde. Emouna, très bien, oui. Ira et... Attitude, presque. Et Ahava. Emouna, Ira, Ahava. La Emouna, la crainte et l'amour. C'est les trois choses qui définissent le tzaddik. Et ces trois choses-là, ils sont présentes chez le tzaddik aussi fort avant, d'accord, qu'après. Ils sont même encore plus forts après. Ils sont même encore plus forts qu'après qu'avant. Alors, ce qu'il a expliqué ici maintenant, ce qu'on va expliquer, c'est que... Alors, je suis ici. Voilà. On va prendre Aveine Biyot Hatzadik. Donc, excuse-moi, je te prends ton livre. On est à la page 292. Ah, c'est une très belle lettre, ça. Voilà. Alors, Aveine Biyot Hatzadik, vous prenez la ligne qui commence par Ila. Dans la page 292. Vous trouvez dans le... Tu te trouves dans l'iPhone? Ça me donne. Hein? Non, mais parce que c'est un problème. Elle est longue, la lettre. Dommage, je vous en trouve.
C'est là, au moins.
Hein? C'est la 27. Ouais, c'est bon. Ah, mais t'as pas le... Traduction?
Il faut la mettre.
Non.
Appuie en bas.
Attends. Table of Content. Geret HaKodesh. 27.
Vous trouvez
tu la traduction simultanée?
Ouais.
Ah bon? Sous chaque mot?
Voilà, bio à l'anal. Veine, bio tatadik.
C'est où? Vers le milieu?
Là, vers là, ici là. Veine, il nous explique. Bio tatadik rayal pene adama, lorsque le tzadik était vivant sur la terre, lorsqu'on voyait le tzadik sur la terre, dans ce monde-ci, hayu shlosh amidot elu, c'est trois midot qui sont à savoir, c'est quoi les trois midot? La emuna, on a dit la ira et la ahava, qui sont les trois qualités qui sont les trois points principaux d'un rabbi, les trois points principaux d'un tzadik, ils étaient limités, betor qui lui ou les vouches, c'est la em. Ils étaient limités dans un réceptacle et dans un style particulier, comme on a expliqué la semaine dernière, que chaque tzadik, il a son style. Et t'as des gens qui apprécient le style, t'as des gens qui préfèrent d'autres styles. C'est-à-dire que lorsque le tzadik est dans ce monde ici-bas, il est limité à un style particulier. Et c'est pour ça qu'on a plein de styles. T'as des gens qui préfèrent un style plus calme, un style plus... chacun a son style. Ça, c'est quand ils sont dans le monde ici-bas. Mais une fois que le tzadik biprinat mekom gashmish ou prinat nefesh akshura begufo, fait chol talmidav ena mekablim rak aharat midotelu vezivan ameir chutz liklize à l'idée d'ibura ou marchavota avec edoshim. J'explique. Ce qu'il explique ici, c'est qu'en fait, lorsque le tzadik est vivant, quand je dis il est vivant, c'est-à-dire qu'on le voit avec notre corps, qu'est-ce qu'on voit du tzadik finalement? On voit ses paroles, on voit peut-être ses pensées, parce qu'il va nous exprimer ses pensées.
Physique.
D'accord? On voit le physique. Mais c'est très compliqué, au travers du physique, à savoir qu'est-ce que pense le tzadik. Parce que le tzadik, quand il doit dire des mots, le fait même qu'il doit dire des mots, c'est déjà pour lui une limitation, le fait de limiter une grande doucha dans des mots. C'est très difficile. Vous savez, on le voit des fois, nous, ça nous arrive, on a du mal à s'exprimer. C'est expliqué en chassidout que pourquoi des fois on a du mal à s'exprimer. Comment ça se fait? Des fois on a du mal à s'exprimer. Pourtant, des fois on s'exprime très bien, et des fois on a du mal à s'exprimer. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi des fois on a du mal à s'exprimer?
Parce qu'on n'arrive pas à traduire ce qu'on...
Mais pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi des fois on arrive, des fois on n'arrive pas? C'est expliqué comme ça en chassidout. C'est expliqué que des fois, le or du sechel, la lumière du cerveau, est tellement forte qu'on n'arrive pas, le cerveau il est tellement ébloui par ce qu'il est en train de penser, qu'il n'arrive pas à traduire et à structurer ça dans des mots. D'accord? Ça veut dire que, on le voit des fois par une personne quand il a un sentiment très très fort, il n'arrive pas à l'exprimer. Pourquoi il n'arrive pas à l'exprimer? Parce que la lumière est trop forte. C'est pour ça que des fois, quand on a un sentiment très fort, on n'arrive même pas à l'exprimer. Parce que c'est trop fort. Imaginez-vous que le tzadik, avec tous les sentiments qu'il a, c'est...
Ça se traduit comme l'émotion.
C'est comme l'émotion, mais c'est pas comme dans l'émotion. Mm-hmm. Des fois, quand on comprend quelque chose de très fort, des fois, on a du mal à l'exprimer. Des fois, quand tu comprends quelque chose de très fort et qu'on te demande d'expliquer à quelqu'un, t'arrives pas à trouver les bons mots. Et c'est pas forcément une faiblesse.
Faut le ressentir.
D'accord? Ça veut pas dire qu'on n'a pas compris. Ça veut dire que, des fois, c'est tellement fort que j'arrive pas à trouver les bons mots. Ouais. Pour faire ressentir à la personne ce que je ressens. Donc c'est pour ça que je dis, écoute, j'arrive pas à m'exprimer. J'arrive pas à dire ce que je pense. Alors, ce qu'explique ici l'Admor HaZaken, c'est que lorsque le tzadik était ici-bas dans ce monde, lorsque vous avez le rabbi qui est en train de parler, le fait même qu'il doit exprimer de la kedusha dans des mots, c'est déjà une limitation. Donc c'est déjà difficile. Et donc c'est déjà nous, on va essayer au travers des mots de retrouver le message. Alors bien sûr, c'est des mots d'un tzadik, c'est pas rien. Hein. Les mots d'un tzadik, c'est quelque chose. Mais c'est une limitation. C'est une limitation, c'est un style particulier, c'est une langue particulière, c'est une manière particulière, c'est un style. Ça veut dire que directement, on s'est focalisé sur une manière particulière qui va plaire à certains et qui va déplaire à d'autres. Ça, c'est lorsque le tzadik est vivant, qu'on communique avec lui physiquement. Mais une fois que le tzadik n'est plus limité par ça, et bien automatiquement, le nombre de personnes qui peuvent se connecter à lui, qui peuvent s'attacher à lui, est illimité. Il dit ici comme ça, Velachen Amurazar Abotelu Zuchana Livracha, c'est pour ça que les Chachamim ont dit, En Adam Omed Aldad Rabo Vechule, qu'une personne ne peut réellement comprendre ce que son maître a dit. Vous savez combien de temps il faut pour comprendre ce que son maître a dit? Combien d'années il faut?
40 ans.
40 ans. Il faut 40 ans. C'est pour ça que lorsque le Rabbi, il n'a pas 40 ans, lorsque le Rabbi a eu 40 ans de Nessiout à la direction du mouvement Chabad, d'accord, c'était en 90. C'était une grande simcha. Mon père était là-bas, ils étaient tous partis à Yudjvat, le 10 Shvat. C'était une grande simcha parce qu'on dit que quand on arrive à 40, ça veut dire que là maintenant on commence à comprendre. On commence à comprendre des choses qu'avant on ne comprenait pas. Pourquoi la Gemara te dit qu'il faut 40 ans pour comprendre ton maître? Et s'il m'a dit quelque chose, il m'a dit un Dvar Torah, j'ai compris. Soit t'as compris, soit t'as pas compris. Quoi, c'est-à-dire qu'avant on n'a pas compris? Quoi, le pshat? D'accord? Le pshat, il a envie de dire, c'est très simple. Il te dit parce que le fait même qu'on a dû rentrer ça dans des mots, c'est déjà une limitation. Donc jusqu'à 40 ans, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends, c'est-à-dire tu comprends comme tu peux comprendre au travers des mots. Mais l'Av Dafka, c'est pas sûr hein, que tu vas réussir à aller au travers des mots et comprendre ce qui se passe dans la tête du tzaddik, si on peut parler comme ça. Quand passe 40 ans, c'est là qu'on peut dire que on a compris ce qu'il y a derrière les mots, pas seulement les mots. Donc ça, c'est une preuve pour nous dire quoi? Que tant qu'on a, c'est une preuve pour nous dire quoi? Pour nous dire que tant qu'on communique avec le tzaddik, avec les mots, d'accord? Quelque part, c'est une limitation. C'est une limitation. Il faut attendre 40 ans. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le rabbi, il peut plus parler 42 ans après qu'il est, 42 ans après qu'il a commencé la Nessiout, après qu'il a commencé la direction. Parce qu'il y a eu 40 ans, même pas quand même, 41 ans et demi. Si on compte avec ça, ouais. Intéressant. Bon, c'est intéressant pour que, c'est-à-dire qu'il y a eu 40 ans. Il y a eu 40 ans.
Il a fait 40 ans de direction et après, il a pu.
Après, non, après, il était malade. Ah ouais. Il était malade pendant 2 ans. Ce qu'on voit. Oui, bien sûr, on ne peut pas parler. Communiquer avec les signes. Il avait toute sa tête, mais communiquer avec les signes. Quand on a des brachot, il fallait. Bon, comme c'est écrit en Shulchan Aruch, quand on parle à quelqu'un qui peut pas parler, il faut toujours lui demander par le oui ou par le non. Par exemple, si je dois lui demander est-ce que je dois faire une opération, d'accord, ben, on va lui demander est-ce qu'il faut faire l'opération, donc il va répondre oui. On va dire est-ce que ça veut dire que. Enfin, je sais pas comment on peut dire le non, il faut qu'il dise non, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas écouter ceux qui disent qu'il ne faut pas faire l'opération? Il va répondre non. D'accord? Là, ça veut dire qu'on a, on a croisé avec le oui et le non. C'est le Shkhanaur qui dit comme ça. Quand on doit demander quelque chose à quelqu'un qui ne parle pas et qu'on veut être sûr de ce qu'on dit, il faut s'arranger pour qu'il dise un oui et un non. Ou bien un non et un oui, ou bien des fois un inverse. Pour s'assurer qu'il a réellement compris ce que tu lui dis. D'accord? Alors, en tout cas, ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est que ce qui explique ici l'Admor HaZaken, c'est que pourquoi l'Agmara te dit, dans la Gemara Vodazara, que jusqu'à que le tzaddik, il nous faut 40 ans pour comprendre ce que le tzaddik dit, parce que jusqu'à 40 ans, on est limité à quoi? On est limité au travers des mots. Alors, c'est pour ça que c'est écrit aussi, que lorsqu'on arrive à l'âge de 40 ans, ou bien lorsque ça fait 40 ans qu'on étudie la Torah, moi je suis pas encore là, mais apparemment, dès qu'on dépasse l'âge de 40 ans, et surtout quand on a eu 40 ans d'études, d'accord, c'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on étudie, c'est autre chose. C'est pour ça, que le rabbi, à un certain moment, il y avait eu des abus avec l'alcool, le rabbi l'avait interdit à tous les chassidim, il a dit, interdit à tous les chassidim en dessous de 40 ans, de prendre plus qu'un révit. Plus que ça, parfois dans un farbringal. D'accord? Parce que bon, voilà, il a interdit. Et il a dit, mais après 40 ans, on considère que la personne est déjà plus mûre. Et encore une fois, c'est celui de 40. 40, dans la Torah, il y a Arbaïm Shana, parce qu'on dit que Ben Arbaïm, c'est écrit dans Pirkei Avot, Ben Arbaïm, l'épina. 40 ans, c'est la sagesse. D'accord.
Tiens encore ça.
Quoi?
Qu'est-ce qui s'est passé
entre temps? Rien. Limite. Hein?
Pour l'alcool?
Ils le tiennent pas. On la tient cette limite encore.
Bien sûr.
Ils ont vu que les bouteilles finissaient trop vite. Il fallait les garder pour la suite.
Non. Quand on voit plus qu'un vide?
Pour Purim.
Non. À part Purim, c'est Simchat Torah.
Un Shabbat. Vous
voulez pas plus qu'un Shabbat? En tout cas, Shabbat. On voit rien du tout, Shabbat.
Plus
enfin, oui. Nous on peut, nous on a passé 40 ans.
Moi je vois pas du tout. Enfin, c'est pas. Moi, en dehors, à part le Fabringen, chez moi il n'y a pas une goutte d'alcool. Si, il y a la petite bouteille de bourra là, de 10, 15 centilitres que Doyle m'a offert.
C'est
pas
du Fabringen?
Non, on prend pas plus que Révit, plus en tout cas. Non. Ah non, je fais attention à ça. De toute façon, j'aurais pas tenu plus que Révit. À part Simchat Torah et Purim.
D'ailleurs, quand il a pris plus, on le voit tout de suite.
Dis-moi, j'ai pas. Bon, quoi qu'on tient bien, mais ça va. Alors, je suis en train d'expliquer. Il dit ici que pourquoi il faut 40 ans? C'est comme c'est écrit en Pirkei Avot, Ben Arbaïm, les Bina. Qu'à l'âge de 40 ans, c'est la sagesse. Ça veut dire qu'à l'âge de 40 ans, c'est quoi la sagesse? C'est quoi le concept de la sagesse? Quand on dit que les femmes ont la sagesse, c'est quoi la sagesse? On dit que les hommes ont l'intelligence et les femmes ont la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est être capable de voir ce qu'il y a derrière les mots. C'est ça, les femmes. On dit qu'une femme, quand elle voit une situation, elle est capable de voir ce qu'il y a derrière les mots. D'accord? C'est pour ça, elle va te dire, oui, t'as dit ça, mais en fait, il y avait ça derrière. Et en général, elle se trompe pas, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'une femme voit ce qu'il y a derrière les mots. Bonsoir. Donc, on est en train d'expliquer que pour comprendre réellement ce qu'un tzaddik a dit, il faut attendre combien de temps? 40 ans. Enfin, du moins pour comprendre ce qui se cache derrière les mots. On ne retrouve plus les Tania. Ah voilà, il en a. C'est bon, tiens. Ici dans l'iPhone. Aval me la chav tirato. Lorsque le tzaddik, Après, la petite ra du tzadik, lorsque le tzadik a priori Kaviyachol nous a quitté, le fils est mis par dim, prinatan nefesh, inish arabeke, vermi, prinataruah, chebegan eden, tchen, shalashuinotalal, ou à ce moment-là, la neshama n'est plus limitée. Et puisque la neshama n'est plus limitée, le fichar, c'est pour ça. Yachol, kol akarov elav, le kabel chelek, mi prinat rucho, chebegan eden, o il, ve eina betorkeli, ve lo, biprinat, makom geshmi. Voilà, ça, c'est un chat très simple. Il te dit, quand tu vas voir dans le kever d'un tzadik, t'as même pas besoin, hein, parce qu'avant, des fois, il fallait que le tzadik te parle, il fallait déjà qu'il te parle, il fallait que tu comprennes ce qu'il te dise, il fallait que tu acceptes ce qu'il te dise. Là, maintenant, quand tu vas demander une bracha d'un tzadik, aujourd'hui, quand tu vas au kever d'un tzadik, t'as rien de tout ça. C'est illimité. C'est encore plus fort, ce qu'a expliqué ici. On est exactement comme, on n'a pas cette limite qu'il faut attendre 40 ans pour comprendre ce qui se cache derrière les mots. Ben Arbaim le Bina. D'accord? Donc, quelque part, c'est mieux. Maintenant, c'est difficile à y croire, mais c'est mieux. Maintenant, il va amener plusieurs exemples où on voit dans le Chas et dans le Zohar, on voit cette notion-là, qu'après le départ d'un tzaddik, on a beaucoup plus de facilité à communiquer avec lui. Alors, il va donner plusieurs exemples. Kanoda, Mahamar, Rabotenu, Dichona, Livracha. D'abord, il dit, c'est connu ce que les Rachamim ont dit. Alors, je suis à la page Kouf Memzaïn, la page suivante, et je suis à la deuxième. Kanoda, Mahamar, Rabotenu, Dichona, Livracha. Comme c'est connu ce que les Rachamim ont dit, dans le Zohar, dans le Midrash aussi, Al Yaakov Avinu Alav Shalom, sur Yaakov Avinu, chez Nichnas Imo Gan Eden. C'est écrit que lorsque Yaakov Avinu est rentré chez Yitzhak pour recevoir les brachot, on dit que Yitzhak, il a flairé tout de suite quelque chose de son éperon. Comment, d'où il savait? D'où il savait? Sans même que Yaakov, il a rien dit encore. À peine, il rentre, il a dit, c'est toi, il a même pas parlé, parce que la Gemara pose la question là-bas, elle dit, mais Yaakov, avant même que Yaakov dise quelque chose, tout de suite, il lui dit, attends, c'est bien, ils savent? D'où il a senti? Et la Gemara a dit, c'est le Zohar, il ramène, c'est le Zohar, il ramène aussi. Il dit, parce qu'il a senti le Gan Eden. Moi, je vous pose une question, on est dans Olam Hazeh. Comment on peut sentir le Gan Eden?
Comment
il
sait l'odeur du Gan Eden?
Bon, ça, c'est Yitzhak. Bon. Ah, il dit, tiens, c'est bizarre, odeur du Gan Eden, c'est ils savent?
Il a un petit bout de sentir l'odeur du Gan Eden.
Attends, on va voir. C'est problématique.
Ceux qui disent qu'il n'a pas tué.
Non, il n'a pas tué, mais il a senti. Avant non, ça, il était limite.
C'est pas au Gan Eden, je
il était limite.
Comment c'est possible? Comment tu peux dire qu'il a senti le Gan Eden? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a compris que c'est pas Essav, parce que Essav, il n'y a pas le Gan Eden avec Essav. Comment il a compris? De là, c'est une preuve que quoi? D'accord? C'est une preuve que quoi? C'est une preuve que dans ce monde ici-bas, hein, on peut sentir certaines choses. Et qu'un tzadik, il ressent ces choses-là. Seulement, nous, on les ressent pas. Mais c'est des choses que nous, que le tzadik, en vérité, si on avait demandé maintenant à Yitzhak, on lui a dit, vas-y, explique tout ce que tu as ressenti. Est-ce qu'il était capable, tu penses, d'expliquer ce que c'est le Gan Eden? Il ne peut pas t'expliquer. C'est-à-dire qu'un tzadik perçoit des choses qu'il ne peut même pas exprimer. Donc il est limité quand tu dois s'exprimer dans des mots. Quand tu dois dire quelque chose à quelqu'un, il est limité. Donc le fait de ne pas être limité par des mots, pour le tzadik, ça lui permet d'accomplir encore mieux sa mission. Vren Katouv, c'est faire à Sarama Marot. Il y a un livre qui s'appelle également Asarama Marot, un livre qui est basé de Kabbalah, qui dit Shavir Gan Eden mit Pachet Saviv Kol Adam. Alors là, il va encore plus fort. Il lui dit que c'est pas seulement autour d'un tzadik. Il dit qu'autour de chacun de nous, il y a le Avir, il y a l'air du Gan Eden. Bon, il y a le Gan Eden, mais aussi le Gainum. D'accord? Et plus, là-bas, il explique que plus les tzadikim, ils ont le flair, c'est les tzadikim qui, à 10 km, il peut te sentir qu'il y a du Gainum là-bas. Parce qu'une personne qui fait une Avera, il véhicule un avir de Gan Eden, enfin de Gehinom ou de Gan Eden. D'accord? Gan Eden pour la mitzvot, Gehinom pour la avirot. De là, on voit quoi encore une fois? On voit qu'il y a des choses qui se passent dans notre monde, qu'il y a certaines personnes qui sont capables de voir, mais que la majorité des gens ne voient pas. Et pour un tzaddik, lui, il vit dans ce monde Gan Eden. C'est-à-dire que lui, quand il voit les choses, il voit des choses que nous, on voit pas. Et donc, quand il doit s'exprimer, il doit expliquer quelque chose à quelqu'un, de lui dire, voilà, fais ci, parce que ça, c'est très compliqué pour lui, parce que c'est, le fait même d'exprimer dans des mots et de parler avec quelqu'un, c'est déjà une limitation pour lui. Donc le fait de ne pas être limité dans des mots, c'est un chesed qu'on donne pour le tzaddik. Venir shamim, ba'avir ze kol marchevota v'dibura v'atorim atovim ba'avodat b'torah avodat Hashem v'chen lefer chazeh shalom venir shamim ba'avir une pachette meginot c'est du kolan. Ce que j'ai expliqué. Autour de nous, quand on marche, vont toujours partout où on va aller, vont nous entourer les mitzvot qu'on a fait et les averot qu'on a fait. Il y a un avir. C'est le fameux avir qui accompagne Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'il explique dans Sarah Mamarot, il se dit que c'est pas que Yaakov Avinu. Tout le monde, chaque personne qui marche, il a avec lui ses mitzvot et les averot qui l'accompagnent. Seulement, seulement Yitzhak qu'il était capable de le ressentir. Donc dès qu'il a vu Yaakov Avinu rentrer au lieu de Esav, il a senti que c'était pas la signature numérique de. Il a dit c'est pas la signature de l'odeur, ça, c'est une autre personne, c'est pas possible. D'accord ? Et il y a une signature, il connaît tout de suite, il reconnaît. De là on voit quoi ? On voit que c'est dans un monde comme ça que le tzaddik vit. Et que pour lui, le fait de devoir exprimer des mots, c'est une limitation. Il car c'est pour ça, naquel me'od les talmidav, les kabel, chalakim, miprinat roua rabba ma'atzmit, she'em emunato, ve'irato, ve'avato, asher avad ba'em et hachem, ve'lo zivam ve'aratam bilvad ameir chutz dikli. Ça veut dire ce qui t'explique en vérité, c'est que il y a la différence, on l'avait expliqué une fois, entre l'essence et le rayonnement. Quand le tzaddik est vivant, on profite que du rayonnement du tzaddik. Et nous, on se limite à ça. Le tzaddik, il t'a parlé, tu vas aller chercher plus loin maintenant, tu vas chercher qu'est-ce qu'il voulait dire. Il t'a dit quelque chose, t'étais heureux, il t'a encouragé, il t'a fait un truc, tu as vu, t'étais content. Mais chez Chassidim, on explique que tout ça, c'est seulement ziv, c'est seulement du rayon, du rayonnement. Et c'est quoi un rayon ? Un rayon, c'est quelque chose qui s'en va. C'est pour ça que tu peux voir le tzaddik, tu peux rentrer chez toi, deux jours plus tard, une semaine plus tard, un mois plus tard, il n'y a plus rien. Parce que c'est un rayon, c'est un rayonnement. Ma chez Enken, alors que lorsqu'on profite directement, lorsqu'on s'attache directement au etsem, à l'essence du tzaddik au travers de son kever, ça c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus fort. C'est expliqué ici. Les filles, chez Prinad Ruchoat, Smit Mit Ale Beilui Acharilui, Leikalel, Beprinad Nishpatosh, je vais un peu vite, hein, parce que je développe pas toutes les notions. Leikalel, Beprinad Nishpatosh, chez Begaladan Elion, chez Bolamot et Yunim. Venoda. Chez Bechol Davar, voilà. Venoda. Je suis à Venoda maintenant, ça c'est intéressant aussi. Donc on a plusieurs points qu'on a développés. D'abord on a dit ce qu'on a expliqué la semaine dernière, que le tzaddik n'est pas limité quand il part de ce monde, et au contraire, pour le tzaddik, c'est encore plus facile d'accomplir sa mission. Très bien, ça c'est numéro 1. Numéro 2, ça c'est quelque chose d'important aussi. Il dit comme ça, il dit quand on fait du mal, le mal peut se réparer. Par exemple, si j'ai fait du mal, j'ai cassé quelque chose, le mal on peut le réparer, ça va prendre du temps peut-être, ça va prendre des années, ça va prendre des dizaines d'années, même des siècles, mais on peut réparer le mal. Mais il dit, le bien, on peut jamais l'enlever. Le bien, on peut jamais le déraciner. D'accord ? Ça, il tire ça aussi du Zohar. D'accord ? Il tire ça du Zohar que le bien, on peut jamais l'enlever. C'est-à-dire quelque chose de bien qui a été fait, tu as fait ce que tu as fait. Vous savez, des fois, on était en relation avec quelqu'un. D'accord ? Tu as parlé avec lui, tu étais avec lui, etc. Et après, avec le temps, les choses ont fait que ça a changé. Alors tu dis, est-ce que ça veut dire que j'ai perdu mon temps ? Hop, t'as un collègue de travail, par exemple. T'es avec lui, t'as étudié avec lui, t'as fait beaucoup de choses, après c'est plus comme avant. D'accord ? Et ben, ce qu'explique ici dans Sefer Aparnes, il te dit que tu dois savoir que ce que tu as fait, c'est jamais perdu. Dans le mal, ce que tu as fait, ça peut se réparer. Le mal peut partir. Mais le bien ne part jamais. C'est-à-dire qu'un bien qu'on a fait, il se déracinera jamais, il sera toujours là.
On dit pas que quand on regrette une bonne action qu'on a fait, c'est le salaire s'en va.
C'est le mérite. C'est le mérite.
Oui.
Mais la bonne action, l'effet est là.
Oui, mais si on la regrette, ça veut dire que le mérite s'en va.
Le mérite s'en va, mais l'action reste. Pourquoi il te dit ça ? Pour te dire, regarde, le tzaddik, il a fait des mitzvot ici-bas. Puisqu'on expliquait...
C'est pareil avec la faute, alors.
D'accord. Que
oui, la faute, elle reste, mais on va dire que la punition,
non,
elle s'en
la
va.
Non, la faute, elle s'en va. Non, la faute, on peut réparer.
Non, je sais pas.
La faute, on peut réparer. Enfin, on peut réparer. Il faudra toujours réparer un niveau plus haut. Mais on peut déraciner une faute. On peut faire sauter une faute. Mais du bien, on peut jamais faire sauter. On peut jamais enlever du bien.
On disait qu'on réparait pas complètement.
On va dire dans les mots. Et là, avec ce qu'il veut expliquer, c'est que finalement, tout le bien que le tzaddik a fait, même si tu vas dire que le tzaddik est parti chez Hachem et que tu as du mal à communiquer avec lui, ce bien-là ne quittera jamais le monde. Il restera toujours dans le monde. Donc, et particulièrement quand on va dans l'endroit où il est enterré, à son kever. Parce que le bien qu'il a fait ne part jamais. C'est-à-dire que puisque son corps, le corps physique, qui est enterré dans un endroit, qui est enterré dans son kever, son corps physique est là-bas, et que son corps a véhiculé de la Kdusha ne peut pas quitter son corps. Même s'il va monter chez Hachem, elle peut pas se déraciner de son corps, parce que dans la Kdusha, on peut pas quitter. Vous voyez ce qu'il veut dire ici ? Alors que dans le mal, quand t'as un rachat qui a été enterré, tu vas aller dans son kever, c'est pas jusqu'à la fin des temps que son kever il va véhiculer le mal. Ça peut partir. Mais la Kdusha, ça part pas. Donc raison de plus pour expliquer comment même après qu'un tzaddik est parti, on peut encore communiquer avec lui. D'abord, on peut mieux communiquer avec lui. Et en plus, pashut, le corps qui a véhiculé le bien, quelque chose qui a véhiculé le bien ne peut pas partir.
Et pourquoi le moment de la Hiloula, alors c'est plus intense encore ?
Oui, on dit que le moment de la Hiloula, c'est le jour où tous les tzaddikim du ciel se rassemblent autour du tzaddik, d'accord ? Et tout ce que le tzaddik demande à ce moment-là, tout le monde s'associe pour accomplir ce que le tzaddik demande.
Ah, c'est décuple. Voilà.
D'accord, c'est chaud. Hein. Ce jour-là, c'est dommage de passer à côté. Là, c'est le jour de l'Aïloula. On dit que le jour, on dit que chaque jour au Gan Eden, d'accord, il y a toujours une ou plusieurs personnes qui est le, comme un petit peu le Rosh Hashiva, d'accord, qui est le chef de séance. Et quand c'est l'Aïloula de quelqu'un, d'accord, c'est lui le.
Pour faire le calendrier des Sadikim.
Avec les... Ah ouais, mais tu vas en Israël, voilà, tu, chaque jour tu fais les quelque
part. Ah oui, en Israël, t'as partout quelque part.
Alors, chaque date, tu vas avoir.
Ça va exister, ça va exister. Calendrier des Sadikim.
Ouais, ils ont fait pareil.
Ils ont des livres où tu as tous les.
Ouais, il y en a là-bas. Celui qui l'a fait. Ouais, je l'ai dit. Sur Maratal. Il y a deux ou trois.
De quoi visiter?
Ah. Alors.
Il y a juste les noms, quoi.
Venoda. Les quoi, les? Qu'est-ce que tu veux? Les dates?
Non, il y a. Il veut un parcours.
Non, il y a le. J'ai vu les. Où tu as l'endroit où c'est. Et
il y a une application iPhone qui s'appelle Kivrei Tzadikim.
Ouais.
Ouais. Téléchargé.
Israël.
Ouais. Il y a que d'Israël. Coûte 2 dollars, je crois, 3 dollars, un truc comme ça. Et il te donne tout, il te donne avec la position GPS, il te donne un petit ridouche du Tzadik, il te donne la photo du Kever, la photo du Tzadik si on l'a. Ouais, ouais. Pas mal.
Il reste plus rien à inventer.
Hein?
Il reste plus rien à inventer.
Par contre, il faut une connexion Internet à chaque fois. En Israël, c'est pas problématique. Bon.
Pourquoi
trop? Oui, enfin, voilà. Oui. Mais bon, enfin. Ouais, alors, je continue. Venoda, c'est connu. Chez Kol Davar chez Bigdusha, que toute chose qui est dans la Kdusha, Eino Nekar Legamre Mikol Vakol. D'accord? Eino Nekar, ça veut dire qu'une chose qui est dans la Kdusha, on peut pas la déraciner. D'accord? Ça veut dire que même si tu vas l'enlever, il en restera toujours. Donc, même si pour toi, le tzadik, tu crois que le tzadik est Niftar, mais toujours, la Kdusha sera là. C'est pour ça qu'on va toujours sur les Gvarim, même de nos parents. Les Gvarim de nos parents, nos grands-parents, etc. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on considère que même s'ils ont fait des Averot, mais une fois que leurs Averot sont partis, parce qu'ils ont fait Teshuvah, ils ont eu tout ce qu'il fallait faire, ils ont été nettoyés, ce qui reste maintenant, leur corps continue à véhiculer la Kdusha. Parce que la Kdusha de leur corps ne partira jamais. Le mal partira, mais la Kdusha de leur corps partira jamais. La Kdusha qui est liée à qui est liée aux autres. Vimkom Madrigator Rishona, Gam la Achar Shinit Ale le Mala Mala. Ou Prinazo, ce niveau-là. Arishona Shinish Ara le Mata Began Eden Atarton. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on accorde beaucoup d'importance aux objets d'un tzadik. Au dollar que le rabbi a donné à. Je sais que Baba Salé donnait aussi des. Mais il y a plein de tzadik maintenant qui donnent des. D'accord, aujourd'hui, maintenant. Il donne tout aujourd'hui. Aujourd'hui, il donne tout. Le rabbi, c'est un des premiers à le faire, mais aujourd'hui, maintenant, il donne des bouteilles d'eau, des pommes, de tout ce que tu veux. D'accord, mais. Non, mais c'est pas une blague, c'est vrai. Prendre accord de l'importance à ça, parce que quelque chose qu'un tzadik a touché.
Tu peux le conserver, la femme de plus longue d'années.
Tu aurais fait un peu de choses, des mouchoirs et de tout. Enfin, le tzadik, tout le monde donne maintenant de tout.
C'est-à-dire quoi, il faut un kili pour que la bracha elle passe
ou... Oui, parce que, étant donné que quand tu gardes, c'est pas qu'il faut un kili pour la bracha elle passe, c'est que quand tu gardes ce kili, bon, le rabbi, la raison pour laquelle il donnait des dollars, c'est parce que pour le rabbi, c'était très important de donner la tzedaka. Et donc, il donnait ces dollars-là, et après, on devait donner un dollar. Enfin, normalement, ce dollar, on aurait dû donner à la tzedaka. Seulement, comme on veut garder ce dollar, donc on donnait un autre dollar à la place, et on rachetait ce dollar. Maintenant, ce qu'on considère, c'est que quelque chose qu'un tzadik a touché, c'est quelque chose qui garde une douche éternelle. Donc, c'est... Alors que, on dit que, comment c'est écrit dans Yom Yom? Dans Yom Yom, c'est écrit que Rabbi, je crois que c'était Rabbi Zusha Dani. C'est le sabbat de Shpoli. Donc le sabbat de Shpol, il avait une grande trayout, il avait une grande énergie, une grande vitalité. Et les gens se posaient la question, d'où il a cette vitalité, d'où il a cette énergie? Et il a raconté, de mémoire, hein, j'ai pas tous les détails, il a dit, parce que quand j'étais petit, une fois le Baal Shem Tov a mis sa main sur ma tête, et depuis j'ai l'énergie, j'arrive plus à m'arrêter.
Il a rechargé à mort.
On voit quand un tzadik qui touche, c'est spécial, c'est très spécial. C'est pour ça qu'il y a des gens qui embrassent la main du tzadik. Il y a cette notion du toucher, cette notion de toucher quelque chose. Donc, Gam la Har Shinit Ale le Mal à Mal, ou Prinazo, Arishona Shinish Ara le Mata Beganeden Atarton. Ce niveau-là, c'est un niveau qui restera toujours. Bim Kombo Madrigator Arishona, Iyamit Pachetet Betalmidav. Donc finalement, une question que beaucoup de gens posent, ils disent, mais dans ce cas-là, puisque tu dis que le tzadik est illimité, alors pourquoi, dans ce cas-là, on a besoin d'aller au Kever du Tzadik? Pourquoi je ne peux pas rester ici à Paris? Bah oui. Tu dis qu'il est illimité.
Non, tu dis que son corps, il a gardé une
cuve. Ah, justement, ça c'est la réponse. Parce que, avec le premier élément qu'on a dit, qu'au contraire le tzaddik n'est plus limité, dans ce cas-là tu peux le faire. D'ailleurs, tu peux le faire, tu peux prier même à Paris. Quelle est l'importance d'aller sur le Kever? L'importance d'aller sur le Kever, c'est que sur le Kever, on touche directement la Kedusha qui est déjà là. Une Kedusha qui a déjà été matérialisée. Donc c'est beaucoup plus facile à communiquer avec le tzaddik. C'est la raison pour laquelle on va dans le Kever. Mais effectivement, on peut communiquer partout. Kol Echad, Kefi Prinat Itkashruto, Vekirvato Yala, Vechayav Bemoto, Beavaraba, Kiam Shachat Kol Ruchaniyut, Enalide Avaraba, Kemosh Ketu Bezorakadash, De Ruar Ter Uta Deliba, Amshirucha, Ruar Milaila. Là, il explique comme ça. Il dit qu'avec ça, on comprend comment ça se fait qu'entre un rabbi et un chassid, il y a toujours une notion d'amour. Ça peut choquer des fois. Une notion d'amour. D'ailleurs, il y a quelqu'un, il est niftar l'année dernière. Une personne qui était, j'ai entendu lui-même, il l'a raconté, c'est M. Choukroun. Quand il était jeune, il était à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Bah, au Hachem, avec très bonne tête, etc. Et il commençait à poser trop de questions sur le sens de la vie, des trucs comme ça, etc. Alors, chaque fois qu'il lui a dit un certain moment, il a dit, écoute, ça, ces trucs-là, il te faut le Tania, il te faut un truc... Bon, apparemment, c'était plutôt Gmara, il voulait pas se prendre... C'est pas qu'il voulait pas se prendre la tête, c'était pas le style, quoi. Il a dit, pour toi, apparemment, il te faut un truc... il faut le Tania. Lui, il était sûr qu'à la yeshiva de Bruno, il était là toute la journée. C'est pas le cas, bien sûr, mais bon. Alors, il est parti à la yeshiva, et quelqu'un de très intelligent, à la vache à l'homme. Et donc, il est venu là-bas, il a posé toutes ses questions, il a aimé, il a adhéré. Et après, il est resté comme ça 2 ans à la yeshiva, un jeune homme. Après, les élèves lui ont dit, écoute, maintenant, il faut que tu viennes avec nous, on va aller voir le rabbi. Il faut que tu viennes chez le rabbi maintenant. Alors, il vient chez le rabbi, il avait préparé sa liste de questions. Quelqu'un de très, très organisé comme ça. Alors, il vient chez le rabbi, il a préparé sa liste de questions. Il a posé plein de questions, mais des questions très, très spéciales. Alors, une des questions qu'il a posées, il a dit... je vais vous donner 2 questions qu'il a posées. D'accord, des questions, il y avait des questions de pensée juive, mais il y avait aussi 2 questions pratiques. Il a dit, je suis rentré dans toutes les maisons, et dans toutes les maisons Chabad que je suis rentré, j'ai remarqué qu'il y a une photo du rabbi. Pourquoi? Vous avez posé cette question à qui?
Au rabbi.
À part ça, il a posé une autre question. Il a dit, les chassidim, ils parlent beaucoup d'amour. J'ai jamais entendu les chassidim, ils disent qu'ils aiment le rabbi, mais c'est pas... C'est quoi cette notion-là de s'attacher au rabbi, d'aimer un rabbi? C'est pas... Quel rapport entre un maître et un élève? Je veux bien qu'on étudie ce que le rabbi dit, qu'on suit le rabbi. Mais c'est-à-dire quoi aimer le rabbi? Alors le rabbi lui a répondu comme ça. Il lui a répondu, c'est lui-même qui l'a raconté. Le rabbi lui a dit, la raison pour laquelle les chassidim m'aiment, c'est parce que c'est écrit, on l'avait appris dans le Tanya, que kemaim apanim apanim kenlev adam la adam. Que en général, les gens, ils renvoient toujours les sentiments qu'on leur donne. C'est-à-dire si tu donnes à quelqu'un un sentiment d'amour, avec le temps, il va te renvoyer ce sentiment d'amour. Et donc, il a expliqué, il a dit, moi, j'aime tellement les chassidim, que les chassidim peuvent que m'aimer en retour. C'est la première réponse. Et il lui a dit, pour la photo? Alors lui, il avait dit, pourquoi il y a une grande photo dans tous les salons? Alors il avait dit, si c'est pas une grande photo, ça peut être aussi une petite photo. Enfin, ça plaisantait ça. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a cette notion d'amour. Il y a une notion d'amour très fort entre un rabbi et un chassid. D'ailleurs, à tel point, c'est une notion d'amour très fort. On dit que, chez Chassidim, on dit que si Shlomo HaMelech avait connu l'amour qu'il y avait entre un rabbi et un chassid, au lieu de mettre dans Shir HaShirim un homme et une femme, il aurait mis un rabbi et un chassid. Comme ça, on dit chez Chassidim. Donc, il y a une notion d'amour. Un chassid, il aime son rabbi très très fort. Ce qui explique ici. Que pourquoi il y a une notion d'amour? Parce que finalement, la relation avec le tzaddik, elle devient tellement forte que c'est une relation presque physique. C'est pour ça que le meilleur endroit pour s'attacher au tzaddik, c'est dans l'endroit où il y a son physique, son corps. Parce que c'est une relation qui est physique. On aime physiquement avec des sentiments, avec un ergesh. On sait que le rabbi, chaque fois que le rabbi parlait de son beau-père, surtout dans les premières années, mais même après, chaque fois qu'il parlait de son beau-père, on voyait physiquement comment il pleurait. On pouvait voir dans un même Fabringen comment le rabbi se mettait à danser, d'accord, et 5 minutes plus tard, il se mettait à parler de son beau-père, et il se mettait à pleurer comme si ça fait... Ça fait des années qu'il pleure.
Dans ce cas-là, pourquoi les chassides, ils sont plus attachés au dernier rabbi qu'au rabbi précédent?
Parce qu'ils ont connu.
Parce que c'est celui qu'ils ont connu. D'accord. Non, il y en a qui l'ont pas connu aujourd'hui. Donc ils pourraient aussi bien être attachés.
Je t'expliquais. Parce qu'il y a une...
Finalement, plus proche, quoi, la Tania que...
Parce qu'il y a une structure. Il y a une structure. En vérité, tous les rabbis, d'accord, c'est une série. C'est pas qu'il y a 7 rabbis différents. Il y a une structure. C'est chaque rabbi continue... D'accord? Continue ce que le rabbi d'avant a fait. Et ici, il y a 7 rabbis de Lubavitch. 7 rabbis, chez Chassidim, on explique que 7 rabbis, ça correspond aux 7 sphirotes. La sphira du rabbi, c'est Malchut. On a expliqué plusieurs fois dans le cours de Tania que la qualité de Malchut, c'est quoi? C'est quoi la royauté? La sphira de Malchut, c'est elle qui englobe tout ce qu'il y a au-dessus. C'est pour ça que chez le rabbi, chez notre rabbi, on a vu toutes les qualités qu'on a vues chez les autres rabbis. T'avais des rabbis qui étaient plus dans Avat Israël, des rabbis qui étaient plus dans l'étude, rabbis... enfin chacun il avait, tout le monde avait un peu de tout, mais chacun il avait un point fort. Et chez le rabbi on a vu comment, dans tout il était très fort. Mais Gashmiut, physiquement on l'a vu. Physiquement on a vu une perfection chez le rabbi. Une perfection dans des tas de choses. Des choses dans Avat Israël, dans des tas de choses. Dans le Limoud.
Je peux le provoquer ou pas?
Vas-y.
Moi cher Rabbeinu.
Oui.
Pour moi c'est le summum au-delà de quelques rabbis qu'il soit. Pourquoi on ne se sent pas forcément plus attaché à Moshe Rabbeinu qu'à un rabbi?
Parce que Moshe Rabbeinu
a englobé tout ce qui était avant, ce qui était après.
On dit qu'un rabbi, le rabbi on l'appelle, c'est un nassi. Et le nassi on dit que c'est le Moshe Rabbeinu de la génération. C'est-à-dire qu'en vérité le rabbi c'est Moshe Rabbeinu. Le rabbi c'est la représentation de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a un représentant, un ou plusieurs représentants à chaque génération.
Mais Moshe Rabbeinu, donc lui personnellement, il doit englober tous ses rabbis. Donc quelque part, on devrait être plus proche, on devrait se sentir plus proche de Moshe Rabbeinu que de n'importe quel rabbi en réalité.
Oui, mais il a un représentant.
Ah mais le représentant, c'est jamais comme le quoi? Patron. Hein.
Non, parce qu'on dit qu'on explique en chassidout que quand tu prends une étincelle, on dit que contrairement au physique, ou dans le physique, si je prends 1%, j'ai 1%, j'ai pas 100%. On dit que dans le etzem, dans l'essence, comme ça c'est écrit dans Rabbeinu Bechaye, il dit comme ça. Il dit que l'essence, que shata tofes ben mixesdo, quand tu attrapes un petit morceau, tu attrapes tout. C'est-à-dire que l'essence, c'est pas quantifiable. C'est pas quelque chose de quantifié, je prends un peu, je prends beaucoup. Dès que tu as un petit peu, tu as tout. Et on dit qu'un rabbi, il a en lui la neshama de Moshe Rabbeinu.
Mais donc, un peu ce que tu dis, c'est justement, donc ceux que tu connais de ton vivant, quelque part, t'es sûr de plus les saisir encore que n'importe qui, en réalité.
Oui.
Donc, ça a quand même aussi un lien avec le fait de l'avoir connu, socialement, l'avoir connu, ou que les parents l'aient connu.
Alors, on avait expliqué soit l'avoir connu, soit avoir connu des gens qui l'ont connu.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Ça joue aussi, je pense.
Ça joue, bien sûr, ça joue. Mais en vérité, le tzaddik représente Moshe Rabbeinu, ce qu'on explique ici. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est ici dans les mots. Je t'aurais expliqué que, là il en parle aussi, de cette notion d'amour, à Ava Rabba. Le mot qui dit ici, il y a un grand amour entre, voilà, on dit un grand amour entre le rabbi et les chassidim. Le rabbi aime ses chassidim, et les chassidim aiment le rabbi. D'accord? C'est pour ça qu'on, chaque fois qu'arrivait l'anniversaire du rabbi, ou des choses comme ça, les chassidim, ils préparaient des cadeaux pour le rabbi. Ça peut choquer un petit peu. Chaque fois, pour Yudalef Nissan, le 11 Nissan, les chassidim, genre, même à l'Yeshiva, même maintenant quand on est à l'Yeshiva, on préparait des cadeaux pour le rabbi. Alors, c'est quoi un cadeau pour le rabbi? C'est-à-dire, par exemple, on va dire, bon, je vais prendre tant de pages de Gemara par cœur, je vais prendre tant de Mamari par cœur.
Le quoi, Nissan?
Le 11 Nissan, l'anniversaire du rabbi. J'étais chez le rabbi cette année, le 11 Nissan. On prépare des cadeaux pour le rabbi. C'est-à-dire pour montrer que la relation entre un rabbi et un chassid, c'est une relation qui va toucher pratiquement le physique.
Oh, c'est plus important, la date de l'anniversaire ou la date de la mort?
Des choses différentes.
Au Beit Rabbah de Vilna, quand les gens montaient au Sefer Torah, ils disaient, je prends sur moi une page de Mishnah, l'autre disait, je prends deux pages de Gemara.
Ouais.
C'est leur don.
Je me rappelle. Je me rappelle quand j'étais là-bas en août. Là. D'accord, donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'il y a la notion de Ava, la notion d'amour. Et cette notion d'amour, on a plus de facilité à la voir quand on est dans le kever du tzaddik. Donc, Rak, im ichon nikrat elokav, be'achana rabba ve'igia tsuma lekabel shalosh midot alelu, k'mama rabotenu zichonan livracha, yagata umatsata ta'amin. Seulement, le plus difficile, c'est quoi? Le plus difficile, après, c'est que ces trois notions-là de Emuna, Ira et Ava, on a dit que quand on vient chez un tzaddik, qu'est-ce qu'on a dit Yosef? C'est quoi les trois choses qu'on récupère? Quand on vient chez un tzaddik, c'est quoi les trois points avec lesquels on communique avec le tzaddik? Emouna.
Ava.
Oui. Emouna, Ira, Ava. Maintenant, il dit, ça c'est le rabbi précédent qui explique. Il dit, c'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est de traduire ça dans la pratique. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est devant un tzaddik, quand quelqu'un il est devant un rabbi, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est Emouna est au top. Sa Ahava, son amour vers Akadosh Baruch Hu est au top aussi. Sa crainte d'Akadosh Baruch Hu est aussi au top. Moi, le plus dur, c'est quoi? C'est que vous avez remarqué que ces trois choses-là, c'est pas forcément des mitzvot. C'est des choses qui sont un peu abstraites. Le plus difficile après, c'est de traduire ça dans du concret. Ça, chez Chassidim, on dit que ça, c'est pas le rabbi qui le fait. Alors, sachez que sur ça, il y a une grande machloquette entre l'Admour Hazaken et Rabbi Aaron de Karlin. Vous avez déjà entendu parler de Rabbi Aaron de Karlin? Rabbi Aaron de Karlin, lui, il pensait, il disait, d'après moi, c'est le tzaddik qui fait tout. Il dit, c'est écrit, « Ve tzadik ve emunato irie », que le tzadik vivra avec sa emuna. Et lui disait comme ça, il disait, « Al tikre irie, et là, yechaye ». Ne lis pas irie, mais lis plutôt yechaye, il va faire vivre. C'est-à-dire que lui, Rabbi Aaron de Karlin, il disait, d'après moi, le rôle du tzadik, le tzadik fait tout. C'est-à-dire que d'abord, le tzadik, il a la emuna, et le tzadik, c'est lui qui va mettre ça en pratique, et c'est lui qui fait tout, les chassidim, ils doivent juste être passifs. Edmond Razaka n'était pas d'accord. D'accord, alors quand je dis c'est une grande marloquette, parce qu'il y avait chacun qui a amené ses preuves, hein, c'était des amis. Et Rabbi, l'Admor Hazaka n'était pas d'accord, non. Il dit, le tzadik, lui, ne peut donner que Emuna Yira Ahava. Mais après, la concrétisation de tout ça, ça, le tzadik ne donne pas. C'est pour ça qu'on voit, concrètement, que tu as des gens qui peuvent fréquenter un tzadik, et c'est des gens qui peuvent avoir un grand amour pour Dieu, une grande crainte de Dieu, une grande Emuna, mais qui vont, concrètement, tu vas pas les voir qui vont rajouter dans les mitzvot. Vous avez déjà vu ça, des gens comme ça? Des gens qui fréquentent des tzadikim. Oui, d'accord? Grand émouna. Ouais. Beaucoup d'ava, beaucoup de dire, mais ils arrivent pas à traduire ça dans l'action. Ouais. Pourquoi? Comment ça se fait? Très simple, c'est la réponse est là. Parce que, selon la chité d'Edmond Razaka, il y a deux catégories de tzadikim. T'as des tzadikim qui te donnent un package, et tout qui est inclus. T'as un tout qui est inclus. Mais le problème, ce que tu perds avec ça, c'est que c'est pas ton travail, c'est le tzadik qui fait tout. Edmond Razaka, je veux pas de ça. Morazaken, il dit, moi je donne au chassidim Emunahir à Ava, et après c'est à eux de traduire ça dans le Torah Mitzvot. C'est pour ça qu'on voit des tas de gens qui ont fréquenté des tzadikim, qui ont une Emunah, qui sont juifs au plus profond d'eux-mêmes, mais on n'a pas vu concrètement qu'ils ont fait des efforts dans le Torah Mitzvot. C'est ma machin, ce qu'on a expliqué ici. Mama, raboté le zichonan livracha, yagata ou matzata ta'amin. Alors ça, c'est un beau pirouge du rabbi aussi. Vous connaissez ce pasouk là qui dit? D'accord. Yagative le matzata. Alors, c'est quoi le pasouk? Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit comme ça. Il te dit, si quelqu'un vient te voir, il m'y marre Adam. Voilà, le pasouk, la Torah dit comme ça là-bas. Si une personne vient te dire, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'on te dit? Ne le crois pas. Si une personne vient te dire, j'ai trouvé sans chercher. Qu'est-ce qu'on te dit? Ne le crois pas. Et si une personne vient te voir et te dit, j'ai cherché et j'ai trouvé, tu peux le croire. D'accord? J'ai cherché. Alors, moi, tous les enfants connaissent cette chanson. D'accord. On a regardé le pshat d'Edmond Razaka. Il dit comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Il dit ici, enfin, la Gemara, il dit, yagata ou matzata ta'amin. Nous, on a dit, j'ai cherché et j'ai trouvé, tu peux le croire. Ah, mais t'as dit le mot emuna, là. Alors, qu'est-ce qu'il expliqué? Il va dire, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais comment j'explique ce Gemara? C'est que, Yagata ou matzata ta'amin. Ça veut dire que tu peux pas te suffire que de la emuna. Pour traduire la emuna dans la pratique, il faut yagata ou matzata. Il faudra chercher et trouver. C'est pas quelque chose qui viendra tout seul. Il faudra yagata ou matzata sur la emuna. Et là, ça marchera. D'accord? C'est-à-dire que la emuna qu'un tzadik nous amène, c'est pas suffisant. Nous, on a besoin par derrière d'être là pour traduire ça dans le concret. Comment ils disent, je crois qu'ils disent 5% de 5% d'inspiration et 95% de transpiration, c'est ça, non? Ah, comme ça. Hein? Il y a une idée comme ça. Vous connaissez ça? On dit que quand on est inspiré par quelqu'un, par un grand homme, etc., on dit qu'en général, la manière comment ça se passe, c'est que tu as 5% d'inspiration et 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Et si tu les as pas, ça s'appelle 95% de transpiration, et les 5% ils sont. D'accord, ça c'est la chité de Edmond Razaka. Mais encore une fois, Rabbi Aaron de Karlin n'était pas d'accord avec ça. C'était une grande marloquette. Une grande marloquette, hein. Rabbi, les Shem Shamaim, bien sûr. Rabbi Aaron de Karlin lui disait, moi je pense que le tzadik il doit tout faire. Et c'est pour ça, hein. C'est une des différences qu'il y a entre les chassidim polonais, chassidim donc de Gour, de Satmar, etc., et les chassidim Chabad. Et les chassidim russes en général. C'est que chez les chassidim polonais, ils suivaient plus la chité de Rabbi Aaron de Karlin. Et donc c'est pour ça que chez les chassidim polonais, en général, les rabbis n'ont pas écrit de texte. Ils n'écrivent pas de texte. Alors comment on faisait pour s'attacher au rabbi? Très simple. On vient chez le rabbi, le vendredi soir, le shabbat après-midi. Le rabbi fait un dvar Torah, d'accord? Et le rabbi, il laisse des shiraim. Shiraim, c'est ce que c'est les shiraim? C'est ce que c'est shiraim ou pas? Il laisse des... Ça veut dire qu'on lui prépare un grand gâteau ou un grand plat. Il goûte un petit peu, d'accord? Et après, dès qu'il a fini, les chassidim lui prennent les restes. Et les chassidim me disent que quand ils prennent les restes, alors, quand ils prennent les restes, automatiquement, le tzadik il rentre en eux. D'accord? Mais chez Chabad, on fait pas ça. Shiraim. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est quoi la notion de Shiraim? La notion de Shiraim, c'est de dire que je vais profiter du travail du tzadik et que la emouna du tzadik va rentrer en moi. D'accord? Le rabbi, il dit non. Le rabbi, il dit, depuis la Mourazaken, déjà, il dit, chez nous, ça marche pas comme ça, et pas de Shiraim. C'est pour ça, des fois, dès que le rabbi laissait sur la tête des gâteaux, etc., et qu'il y avait des gens qui venaient pour les prendre, tout une... Les gens qui prenaient quand même. Parce qu'il n'y a pas de shiraim.
Ça veut dire que les autres ils se fatiguent pas.
Quoi?
Ça veut dire que les autres ils se fatiguent pas. Ça veut dire quoi?
Moins. Ça veut dire qu'on se fatigue beaucoup moins.
Des miettes.
se fatigue beaucoup moins. C'est comme ça, les différentes chitotes. Ouais. Comme par exemple, si vous prenez la chassidut de Breslev, par exemple. Dans la chassidut de Breslev, on te dit, voilà, tu fais tikkun haklali, d'accord, et tac, kapara. Ça a l'air facile. D'accord. Non, tu dis aussi, mais je parle pour s'attacher au tzadik. Tu l'utilises, tu connais la clé. Après, c'est le tzadik qui t'occupe. On sait très bien ce qui est écrit chez les Breslev, que Rabbi Nachman, il le tira par les piottes. Ça, c'est mamash, un exemple de chassidim polonais.
Encore faut-il avoir des piottes.
Encore avec la kavana aussi.
Non, bien sûr, avec la kavana. Mais ça veut dire qu'on considère. Non, mais c'est pas une contradiction. J'explique les différentes approches qu'il y a. C'est que l'approche Breslev, par exemple, ça rentre dans l'approche polonaise qui dit que, bien que Breslev, c'est pas en Pologne, mais c'est la même approche. C'est une approche qui dit que c'est le tzadik qui va tout faire. Nous, on doit juste s'attacher au tzadik, que le tzadik fera le reste. Il tira par les péotes, fait le tikkun haklali, s'attache au tzadik, que le tzadik fera le reste. L'Admor HaZaken n'est pas d'accord avec ça, parce que l'Admor HaZaken, il pense que quand ça vient du tzadik et ça vient pas de toi, ça peut pas tenir durablement. Donc lui, il disait, je préfère que ça prenne du temps, d'accord, et que ça vienne de la personne, et là, au moins, ça sera durable. Mais c'est beaucoup plus difficile. C'est très dur. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que le rabbi l'a racontée dans un Fabringen. Le rabbi l'a racontée dans un Fabringen en Tafshin Chafhe, 5725, 1975. Il est 1965. Il a raconté, il a dit, la différence qu'il y a entre un chassid polonais et un chassid rabbin. Une très belle histoire. Et il dit comme ça, il a dit, un chassid polonais, il va demander, arrive les fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, enfin, peu importe la date, il va demander à sa femme la permission d'aller chez le rabbi. Parce qu'il n'a pas de quoi payer un billet pour tout le monde. Il va demander à sa femme, il dit, est-ce que je peux aller chez le rabbi, s'il te plaît? Ça va pas être facile, je vais te laisser avec les enfants. En plus, c'est une mitzvah de rendre visite à son maître pendant les fêtes, puisque ça nous rappelle la Aliyah la Régale, quand on allait à l'époque au Beit HaMikdash. D'accord? T'es avec nous? Oui. Alors, donc le chassid polonais, il va demander la permission à sa femme. Sa femme lui dit, bien sûr, va chez le rabbi. Il dit, tu vas nous amener des brachot, la parnassa, ça va pas comme il faut. Et on a bientôt une fille à marier, et après, il y en aura une autre. Alors, tu vas demander des brachot, et Bezrat Hashem, tout ira bien. Le chassid polonais il va chez son rabbi, et bah, au Hashem, il passe des super fêtes, d'accord. Il entend des petits vortes, il entend des petits divertora par-ci par-là, et après, à la fin, avant de partir, il rentre chez le rabbi, il dit voilà, rabbi, la parnassa, j'ai besoin de la parnassa, j'ai besoin de marier ma fille, etc.
Un vendredi soir à l'époque là-bas.
Hein?
J'avais rencontré un vendredi soir à l'époque là-bas.
Un vendredi soir, je l'avais raconté? Ouais. Alors, et donc le chassid, il demande, et les brachot, ça marche? Parce que le rabbi, il a donné les brachot. Donc, il rentre chez lui, et bah, au Hashem, la parnassa, ça va de mieux en mieux. Et il marie sa fille, il y a de quoi payer, tout va bien. L'année d'après, il demande à sa femme, il lui dit, est-ce que je peux aller encore chez le rabbi? Sa femme lui dit, bien sûr. Non seulement qu'elle lui dit, bien sûr, elle lui prépare les sandwichs. Elle lui dit, attends, t'es parti, ça a marché. Donc elle lui dit, vas-y, même reste plus longtemps s'il faut, y a pas de problème, ça mène des brachot. Et prie encore pour la deuxième fille qui a marié, etc. Et prie pour la parnassa et qu'on change de maison, etc. Bon. Ça, c'est le chassid. Donc tout se passe bien. Ensuite, ce chassid-là, sa femme, elle lui dit, est-ce que tu peux me répéter un petit mot du rabbi? Il dit, bien sûr, il lui répète. Parce que le rabbi, chez Rabbi Polonais, il dit des petits mots. Donc il lui répète un mot, et la femme, elle est contente. Elle a eu un petit Dvar Torah, elle a la Parnassa, elle a la famille qui va bien, tout va bien, Baruch HaShem. Il arrive au Gan Eden, on lui dit, alors, qu'est-ce que tu as appris? Raconte-nous, tu es un chassid de Gour, un chassid de Bèze, raconte-nous ce que tu as appris. Il dit, voilà, j'étais chez mon rabbi, voilà ce que le rabbi a dit telle fête, voilà ce que le rabbi a dit telle fête. C'est des petits trucs faciles à se rappeler. Donc il se rappelle et il sort. On dit, ah, très bien, quoi, la kavod, bravo, bon, Baruch Haba au Echal de ton rabbi. Ça, c'est le chassid polonais. Maintenant, tu as le chassid rabbin. D'accord? Le chassid rabbin, le rabbi, c'est le rabbi qui raconte ça, je ne me serais pas permis de raconter. Le chassid rabbin, il demande la permission à sa femme. Il lui dit, est-ce que je peux aller chez le rabbi? Sa femme lui dit, bien sûr, avec plaisir. Il dit, voilà, n'oublie pas de demander la même chose, les brachot pour ta fille qui doit se marier, les brachot pour le parnassa, les brachot. Il y va. Et il y va, alors il essaye d'écouter. Alors il y a beaucoup de monde. Et le rabbi parle pas très fort. Et c'est long, les divrei Torah sont longs et c'est très profond. Alors il essaye d'écouter un petit peu les divrei Torah, mais il a beaucoup de mal à entendre. Il dit bon, c'est pas grave. Après, il y avait toujours la chazara après. Il dit c'est pas grave. Après le discours du rabbi, il y a les chassidim qui vont répéter pour se rappeler. Donc il dit bon, c'est pas grave, j'aurai la chazara, j'aurai la révision. Et il vient à la chazara, il y a du monde, il essaie d'écouter, mais il est tellement crevé qu'il s'endort. Il dit bon, c'est pas grave. Après ils vont imprimer, donc. Bon, concrètement, il révisera jamais. Bon. Et comme ça, chaque fois il dit, bon, c'est pas grave, le prochain Fabringen, la prochaine Drasha, j'écouterai bien. Et donc, de Drasha en Drasha, comme ça, chaque fois il dit, la prochaine, ce sera mieux, concrètement, il arrive à la fin de la fête, et il a assisté à tout, Mais il a rien retenu, parce que c'était trop fort. Soit il entendait pas, soit c'était trop compliqué, soit c'était trop... Mais il est bon, mais il a profité quand même, il a profité, parce que c'est des moments forts, mais il a du mal à trouver des mots. Bon. Vient le moment où il doit partir. Vient le moment où il doit rentrer chez lui. Alors il doit rentrer chez lui, donc il se rappelle tout ce que sa femme lui a dit, n'oublie pas, demander les brachot pour la parnassa, pour le shidour, etc. Pour le shidour, qu'on ait l'argent pour le mariage. Et donc il note tout sur un papier, il rentre chez le rabbi, en iridout, mais il est tellement ébloui qu'il oublie d'où. Il demande au rabbi, je veux des brachot pour étudier la Torah comme il faut, pour faire une bonne tefila. Il oublie complètement qu'il est marié, qu'il oublie tout. D'accord? C'est ma mâche, ceux qui ont connu le rabbi, ceux qui ont même quand on est ol, on oublie tout, tu oublies tout. Alors il rentre, donc, et là il est comme ça, et le rabbi donne des brachot, le rabbi répond à ce qu'on lui demande. Donc le rabbi donne des brachot, tu feras une bonne tefila, tu seras bien la Torah, etc. Après il sort, il est encore sous l'émotion, il prend la route, d'accord? Et quand il est en route, il se rappelle, il dit, ah maman, ce matin, qu'est-ce que je racontais à ma femme? J'ai oublié de demander pour ce qu'elle m'a dit pour là. Il dit, bon, c'est pas grave, on se débrouillera. Il rentre chez lui, sa femme lui dit, alors, comment c'était? Il dit, ah, c'était super. Raconte-moi quelque chose. Ah, c'était super. Il a rien à raconter. Enfin, c'est pas qu'il a rien à raconter, c'est qu'il a pas de mots, il a rien à répéter. Sa femme lui dit, bon, oh, c'est pas grave. Bon, peut-être c'est avec l'émotion, peut-être tu te rappelles pas d'Ivrei Torah. Mais au moins, t'as demandé une bracha pour ta fille. T'as demandé une bracha pour la panassa. Il dit, ah, j'ai oublié. La vérité, tu m'en veux pas, j'étais... Quoi, t'as oublié? Mais moi, j'étais là avec les enfants, en train de me crever, et toi, t'es là en train de profiter, tu oublies, et là, ça explose à la maison. D'accord? Et là, il est comme ça, il sait pas quoi faire. Il dit, bon, promis, la prochaine fois, j'irai chez le rabbi, d'accord? Je demanderai. Après, vient l'année d'après, le rabbi dit, sa femme, il demande à sa femme, il lui dit, est-ce que je peux aller chez le rabbi? Ah, sa femme lui dit, attends... Tu m'as déjà fait le coup, tu peux me la refaire. Alors sa femme, elle lui dit, non, tu restes à la maison, je ne veux pas rester seul pendant les fêtes. Donc elle lui dit non. Et lui, il est là, il insiste, il la supplie, il essaye de tout faire, de faire les courses, de tout faire pour essayer de qu'elle lui dise oui, parce qu'il ne peut pas aller sans l'accord de sa soeur, de partir les fêtes sans l'accord de sa femme. Et à la fin, sa femme, elle lui dit oui, elle lui dit, mais attention, n'oublie pas. Et bon, vous imaginez qu'il va oublier encore une fois. Tous ceux qui ont été chez le rabbi, ça, comme mâche, on est ailleurs quand on est chez le rabbi. C'est pas fini. Ensuite, ce chassid, il monte au Gan Eden. Il arrive à la porte du Gan Eden. Alors, il dit alors, ah, t'as un chassid Chabad, ah, très bien. Bon. Chabad, Chochma, Binadat, la compréhension. Donc, tu dois connaître beaucoup de choses. Vas-y, répète-nous un mot de ton rabbi. Et là, il y a un mot de rabbi, il dit beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, la vérité, on a plus de problèmes aujourd'hui, mon crochet, on a tellement imprimé. Et il est là, et il sort.
Non, c'est avec un livre.
D'accord, il sort des petites bribes. C'est imprimé. Et bon, il sort des petites bribes, mais bon. Il dit, mais attends, Chochma Binadat, sors-nous un truc. Il dit, écoutez, mon rabbi, je me rappelle quand il parlait, c'était le feu. C'était... Écoute, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Il dit, écoute, tu vas devoir redescendre. Et l'histoire s'arrête là. Alors le rabbi dit, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le rabbi dit, quand même, le chassid, il est heureux. Il est heureux pour tous les moments qu'il a passé avec son rabbi. Et ça montre, c'est une histoire pour illustrer l'amour qu'il y a entre un chassid et son rabbi. Que quand on a l'amour peut être tellement fort que même si peut-être il sait que concrètement, vous avez vu, on vous a pas sorti un truc comme l'histoire de Rabbi Nachman, qu'il va venir avec les péotes, il va te tirer. Non. On te fera payer ce que tu dois payer. Tu montes en haut, t'es pas prêt, tu redescendras. C'est pas grave, ça ne dérange pas. Parce que moi, je sais que quand j'étais chez mon rabbi, le niveau que j'avais à ce moment-là, c'est un niveau tellement fort que je donnerais tout au monde pour l'avoir. Ça illustre la Ahava Rabba, le grand amour. Et ça, il te dit, Yagata ou Matsata. Chez Chabad, on te dit que ça peut venir que par la fatigue. C'est pas un truc que... Vous voyez, c'est ma vache, on a illustré...
Aujourd'hui, tu peux t'attraper à plusieurs. Tu dis, bon, si un, j'ai loupé un, l'autre, il peut me rattraper par les payottes, quoi.
La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est différent. Depuis Guimel Tamouz, c'est différent. Parce que... Comme depuis Guimel Tamouz...
L'autre, il m'a rattrapé par les payottes, ou l'autre, il m'a rattrapé par ça.
C'est grave.
Depuis Guimel Tamouz, c'est différent. Parce que comme depuis Guimel Tamouz, on n'a plus de nouveaux enseignements du rabbi. Donc du coup, on doit repasser sur les anciens enseignements et ça nous permet de beaucoup mieux les comprendre. Mais avant, les choses allaient tellement vite. Les choses allaient tellement vite. Et chaque fois, il y avait un nouveau truc, que du coup, c'était impossible de tout maîtriser. C'était impossible. Il y avait quelques personnes qui maîtrisaient tout. Mais quand même, on était chez le rabbi, c'est ce qui comptait. C'est ce qui explique ici. Il y a Gata ou Matsata. On fera pas le boulot à ta place. Tu devras te fatiguer. Ça, c'est Yagata Umatsep. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Veiné. Yesh, je reprends à Veiné. Vous avez Veiné? Veiné, Yeshot, Prinatara, les Talmidav. Maintenant, ça veut dire comme ça. Si on veut résumer ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, on a expliqué qu'il y a deux points. Il y a le fait que d'abord le tzadik, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que le tzadik n'est pas limité par son corps quand il monte chez Hachem. C'est ce qu'on a expliqué. Il y a un deuxième point qu'on a expliqué, c'est que la kedusha ne s'en va jamais de sa place. Et donc c'est pour ça que le corps du tzadik véhiculera toujours la kedusha. Donc raison supplémentaire pour dire que le tzadik en vérité est toujours avec. Avec nous. D'accord? Il est toujours là. Ok. Maintenant, il va te dire qu'il y a encore une troisième chose. Veine, yeshot, prinatara, l'etalmida, il y a encore un niveau qui est clair aux élèves du tzadik, après le départ du tzadik. Rak, sheina, mitla, bechet, betor, mocha, mamash, kevarishuna. Il y a encore un deuxième niveau. Les deux points qu'on a expliqués jusqu'à maintenant, quand on est à côté du kever du tzadik, que là c'est le corps du tzadik, donc c'est là qu'il y a ce qui véhicule la kedusha, le fait que le tzadik n'est pas limité, donc il peut donner beaucoup plus, ça c'est des choses qu'on peut comprendre, c'est des choses qui peuvent rentrer dans notre tête. Mais là il va expliquer qu'il y a une émanation qui vient du tzadik, qui est quelque chose qu'on ne pourra jamais comprendre, il va expliquer, c'est très intéressant ça aussi. « Rak meira alea milmala ve'ima liyat rucho venishmato lemakor chotzvo » Ça, c'est lorsque le tzadik remonte à sa source. Alors ça, tout à l'heure, qui a posé la question sur l'Aïloula? Qui c'est qui a posé la question sur l'Aïloula? C'était toi qui a posé la question sur l'importance du jour de l'Aïloula. Alors c'est expliqué comme ça. Ça, c'est le troisième point qui parle ici. Jusqu'à présent, on a expliqué deux points. On a compris les deux points, oui. Premier point, on a expliqué, c'est d'abord le fait que lorsque le tzadik part chez Hachem, il n'est plus limité par son corps. Et deuxième point, on a dit, c'est quoi? Deuxième point, on a dit, c'est que quand on va au kever du tzadik, à cet endroit-là, il y a eu le corps du tzadik. Et le corps du tzadik, la gdusha que le corps du tzadik a véhiculé, elle ne partira jamais. D'accord? Partira pas. Il y a une troisième notion. Pourquoi c'est important d'aller sur le kever du tzadik? Je te dis comme ça. Je te dis parce que, donc surtout pour le jour de l'Aïloula, pour répondre à ta question. Il dit parce que le jour de l'Aïloula d'un tzadik, c'est le jour où le tzadik retourne à sa source. Ça veut dire comme ça. C'est comme, on va dire, tu as par exemple quelqu'un qui a, voilà, il va, toute l'année il roule, et un jour par an, il va à la pompe à essence, il va recharger. Le jour de l'Aïloula, c'est le jour où le tzadik, il remonte à sa source. C'est-à-dire, c'est le jour où le tzadik, il est le plus fort possible de l'année. Il est le plus chargé possible. Ce qu'on appelle en hébreu, mekor en hébreu, ça veut dire, c'est-à-dire quoi mekor? Mekor, la source, d'accord? Chutzvo, la source d'où il vient. Et ça, il dit, ça c'est le niveau qui se passe le jour de l'Aïloula d'un tzadik. On dit que le jour de l'Aïloula d'un tzadik, ce jour-là, sa neshama, elle monte à un niveau supérieur. Pour illustrer ça, on dit que on raconte ça à propos même des tzadikim qui étaient vivants de ce monde ici-bas. Et on dit que chaque année, dès qu'arrivait le jour de leur anniversaire, ils montaient de niveau. Ils montaient de gamme. D'accord? Et chaque année, ils montaient à tel point qu'il y avait des tzadikim comme Rav Yosef, Rav Izera dans la Gemara, qu'on raconte qu'à chaque fois, pour passer d'un niveau à l'autre, ils devaient oublier d'abord le niveau d'avant. Pour pas que ça les embrouille sur le niveau d'après. Quand, par exemple, l'exemple classique qu'on ramène souvent en Chassidout, c'est Rabbi Zera. Vous savez que lorsque Rabbi Zera a fait ça à Aliyah, Rabbi Zera est un grand maître du maître du Talmud de Babylone. D'accord? Combien de jeûnes il a jeûné? Il a jeûné. Il a jeûné des jeûnes pour oublier la méthode de Babylone, pour pouvoir étudier la méthode de Jérusalem. Combien de jeûnes il a jeûné? 40. Encore une fois, le chiffre 40. Parce que des fois, pour monter d'un niveau à l'autre, il faut quelque part se cacher un petit peu. Donc c'est-à-dire ça, on voit même dans la Gemara que chaque fois il y a des tzadikim qui montent de niveau, on monte. Et bien c'est expliqué que le tzadik, chaque année, le jour de son anniversaire, de ce Aïloula, c'est un jour où le tzadik, sa neshama, elle monte. Et tout celui qui s'attache à la corde du tzadik, il monte avec lui. Il monte en même temps que le tzadik. Mais ça, il explique, ça c'est quelque chose qui est invisible. Contrairement à ce que j'ai expliqué avant, tout à l'heure j'ai parlé des brachot, des choses comme ça c'est visible, on sent que le tzadik il est là avec nous. Mais est-ce qu'une personne peut dire que j'étais au kever du tzadik le jour de Saïloula et j'ai senti que le tzadik est monté et qu'il m'a fait monter avec lui? Est-ce qu'il peut dire qu'il a senti ça? Ça on sent pas. Ça existe, c'est quelque chose qu'on sent pas ça. Mais ça existe, c'est des choses qui existent et qui sont comme ça. Que lorsque c'est la loi du tzadik, lorsque le tzadik il monte, on monte avec lui. Vous savez là cette année Guimel Tammuz c'était un Shabbat. Moi j'ai pas pu partir cette année, mais il y avait cette année ils étaient, dans ce que j'ai lu sur Internet, ils étaient 7000 personnes. Maintenant, je ne sais pas ce qui est, ceux qui ont été au OL. Combien de personnes rentrent au OL ?
En même temps ?
D'accord, en même temps.
Cinq,
40, 50, t'as tout cassé. D'accord.
J'aurais dit
60. 60, d'accord. C'était, alors, le problème, c'est que où tu les fais dormir, tout cela, pendant Shabbat ouais. D'accord, parce qu'il n'y a pas de... Bah, non, parce que, non, chaque année...
Noël, mais tu peux dormir là, où il y a la synagogue, tu sais, il y a un peu de...
Non, chaque année, quand c'est la Eloi du Rabbi, t'as environ selon les années, entre 30 et 50 000 personnes qui passent.
En plus, c'est loin. C'est loin de tout.
Le jour de la Eloi du Rabbi, en général, t'as toujours entre 30 et 50 000 personnes qui passent. Et en tout, quand tu comptes les jours avant, après, ça fait à peu près 100 000 personnes qui passent. Mais là, c'est Shabbat. Ouais. Donc, t'as des gens qui sont passés vendredi, des gens qui sont partis dimanche, hier. Et t'as des gens qui sont partis, donc, mais il y avait beaucoup de gens qui ont dormi Shabbat. Alors, comment ils ont fait? Ils ont pris des parkings. Ils ont pris des parkings un peu partout autour. D'accord, ils ont loué des parkings pour faire dormir 7000 personnes. Dans les parkings, ils ont fait construire des tentes. D'accord? Et bon, tout le monde a dormi comme il pouvait. Imaginez-vous pour donner à manger à tout ça, etc. De ce qu'on m'a dit, c'est un budget à peu près d'un million de dollars.
Les donateurs qui ont payé. Hein. Ils mangent pas beaucoup.
Après, ils mangent pas beaucoup.
Ouais, parce que c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de la base. Oui,
c'est Shabbat.
C'est Shabbat, il faut quand même venir la manger.
Ouais, c'est Shabbat. Mais bon.
Et en plus, les tentes, c'est des choses que tu construis et que ça veut dire, c'est fait que pour la.
Ouais.
C'est éphémère. D'accord, il y a des donateurs comme ça en Amérique. En Amérique, il y a des donateurs qui dorment. En tout cas, ce que je vais expliquer, c'est que le jour de la Eloula, c'est un jour où quand le tzaddik il monte, on monte avec lui. Et plus on est proche du tzaddik, de la tombe du kever du tzaddik, et plus on monte chez le tzaddik. Et c'est pour ça que même quand on va chez le rabbi, pour ceux qui ont été chez le rabbi le jour de la Eloula, combien de temps on est resté à l'intérieur ?
Nous, on est resté, je sais pas, 20 minutes,
c'est à peu près. Hein ?
20 minutes.
Ah, 20 minutes, t'avais
lâché.
Ah, t'étais venu à... Ah, t'étais venu pendant la nuit, t'étais venu.
On est pas plusieurs fois.
Pendant la journée, il reste 5 minutes. Même pas.
La journée, ouais.
C'est ça. Et encore.
Ouais. Nous, on est arrivé juste le soir même. Le soir même, on avait du temps.
Ouais, dans la nuit. Ouais, la nuit. Mais là, c'est... Bon, là, c'est particulier quand c'est Shabbat.
Ouais, c'est sûr.
Hein. Copain qui était à l'époque pour raconter, mais on dit que c'était bien. Alors, Daï, nous, ça veut dire, la chakal tapurin kadishin, va liédézé, naasé, sham ichoud, a liédé à l'atman, mikol maasa, vetorato, vavadato, acharavadbat, kol yeme chayav. Qu'en fait, ce qu'il explique ici, c'est que chaque année, dès qu'arrive le jour de la Iloula, toutes les actions du chassid, du rabbi, pardon, toute la Torah du rabbi, tout le travail du rabbi, il monte de niveau, il monte de gamme. Et tout celui qui suit le rabbi à ce moment-là, il monte en même temps de gamme. Venizre ou Bechakal Tapurin Kadishin, Rotelunim, mais hot, là je finis avec ça, pour aujourd'hui. Donc, Asherem Torato Vadato, Varatelunim, Melou, Mera, Kotelmidesh, Nasov, Dachem, Lede Torato Vavodato. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous on peut tirer de ça? C'est que, le jour de l'Eloua est un tzaddik. Et comme le rabbi disait, c'est pas que le jour de l'Eloua est un tzaddik, parce que l'Eloua est déjà passé. Aujourd'hui, maintenant, on est déjà le 5 Tamouz. C'est pas que le jour de l'Eloua. Même les jours qui sont Yamim Asmuchim, les jours qui sont proches de l'Eloua d'un rabbi. C'est, étant donné que le rabbi, il est monté, toute la Torah, toutes les actions du rabbi, tout le travail du rabbi monte de gamme, et bien automatiquement, comme il dit ici, ces lumières-là, cette gamme-là, ça va éclairer sur tous les élèves du rabbi. Et c'est qui les élèves du rabbi? C'est tous ceux qui ont mieux servi Hachem suite à la Torah du rabbi et au travail du rabbi. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement tous les juifs du monde. Parce que la Torah du rabbi, voilà, on est en train d'étudier la Chassidoute, d'accord? Ça encore peut-être pas tout le monde a étudié, mais le travail du rabbi, c'est les shluchim. Qui dans le monde aujourd'hui n'a pas profité des shluchim? Et donc, autour du jour de la Eloula, toute personne qui a déjà un jour profité, qui a déjà été attachée à la Torah du Rabbi et au travail du Rabbi, monte en même temps que le Rabbi. C'est-à-dire qu'en vérité, le jour de la Eloula du Rabbi, c'est tout le Ham Israël qui monte de gamme. Tout celui qui a déjà un jour été lié à quelque chose du Rabbi. C'est pas que pour le Rabbi, c'est pour tous les tzadikim, c'est comme ça. Toute personne qui a déjà été liée un jour et que, grâce au Rabbi, il a pu mieux accomplir une mitzvah, il a pu rajouter dans sa Torah une mitzvah, il a pu comprendre la Dvar Torah, et ben le jour où il monte, tu montes avec lui. Ça, c'est pour tous les tzadikim. Va'arazo, shem aleem ilmala, machneset belibam ir'uret shuva ou ma'asim tovim. Et ça, quand le tzadik il monte, c'est la raison pour laquelle le jour de la Eloua d'un tzadik, on a envie de faire tshuva. On a des pensées de teshuva. C'est comme le tzadik il monte, tout celui qui profite du tzadik qui est lié au tzadik, il monte en même temps que le tzadik. Va razo ibelem vester gadol, que moshema shemer le korabim tachat la aretz, que zeb tikunim moshar benoa vashalom, shelachar ptirato, pour répondre à ta question, je finis avec ça. C'est écrit que sur Moshe Rabbeinu Alav HaShalom, qu'après le départ de Moshe Rabbeinu Alav HaShalom, mitpashet et aharato bechol dara vedara, la neshama de Moshe Rabbeinu s'est répandue dans chaque génération, les shishim ribo neshamat. La neshama de Moshe Rabbeinu s'est répandu en 600 000 représentants. Donc tu comprends que ça nous fait plus qu'un par génération. On peut en avoir plusieurs par génération. Shishim ribo. Kemo shemesh ameir la mitachat la aret, shishim ribo kochavim. Il dit, c'est comme le soleil qui éclaire donc la terre, qui éclaire en dessous de la terre, par 600 000 étoiles. C'est un machal qu'on veut donner. C'est-à-dire qu'en vérité, une étoile, c'est quoi? D'où elle a sa lumière, une étoile? Du soleil. D'accord? Est-ce que le soleil a perdu quelque chose en donnant la lumière aux étoiles? Non. C'est la même lumière. Seulement, c'est une lumière qui est...
L'étoile elle-même, l'étoile, elle est source.
D'où elle vient? D'où elle...
L'étoile elle-même, elle est source de lumière.
D'où l'étoile source de lumière?
C'est des soleils
un peu partout.
Ben oui.
Sauf que le soleil, c'est l'étoile de la Terre. Sauf que le soleil, c'est l'étoile la plus proche de la Terre.
C'est ça. Les autres, c'est aussi des soleils, mais ils sont loin.
Ah, ici, il dit que ici, il compare ça au soleil qui éclaire.
Enfin, tous les... Voilà,
les suivant l'art. Les astres.
Les astres, peut-être? Oui, Kohavim.
Les étoiles, Kohavim.
Kohavim, c'est les étoiles. Bon, faudrait voir. En tout cas, bon, le machal, ce qu'il explique ici, on comprend, hein, c'est que Moshe Rabbeinu, à la vache à l'homme, lorsqu'il est parti de ce monde, sa neshama s'est tout de suite séparée en 600 000. Vous vous rappelez quand Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, lui a demandé de déléguer dans la paracha de Baalotra, aux 70 Kenim, aux 70 anciens. Moshe Rabbeinu, au début, il a dit oui, mais je vais perdre. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu?
Oui, il a perdu.
Non? Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh? Au contraire. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu es comme une bougie. Et quand une bougie, quand on se sert de la flamme d'une bougie, est-ce que la bougie, elle perd? Non. Non seulement elle perd, et que l'autre bougie, elle va être aussi forte que celle d'avant.
Tu veux dire, je vais prendre un petit peu de toi pour
le... Non. Rachid a même cet exemple. Rachid dit explicitement. Il dit que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais je veux perdre. Alors, parce que oui, tu l'as dit, je vais déléguer. Hein?
Il voulait pas perdre.
Bah, il voulait pas perdre, non? Ouais. C'est Dieu qui a demandé de déléguer. Ouais. Il dit, oui, mais si je délègue, je vais perdre mon niveau.
Non, mais lui, il voulait déléguer.
D'accord?
Non, il voulait pas déléguer.
Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, j'en peux plus avec ce peuple, je préfère que tu me tues. Il voulait pas déléguer.
Non, mais quand il y avait des prophètes qui prophétisaient, il était content, Moshe Rabbeinu.
Ça, c'était après.
Oui, après.
Après. Ouais. Mais à ce moment-là, il avait peur. Alors, c'est Rachid, vous verrez dans Rachid, dans Baalotra. D'accord, dans le chichi de Baalotra. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, t'inquiète pas, tu es comme une bougie. Une bougie, tu peux te servir autant que tu peux de sa flamme, elle partira pas, t'inquiète pas, elle perdra pas. C'est exactement la même chose avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, sa neshama s'est séparée en 600 000 neshamot. Et donc aujourd'hui, le rabbi, c'est une de ces 600 000. Ça nous fait beaucoup, 600 000. C'est un gros paquet, 600 000. Ouais. Quand tu connais les tzadikim, ça veut dire que ça nous donne beaucoup, beaucoup de tzadikim par génération. Et ce qu'on doit savoir, c'est que chaque fois que le tzadik il monte, toute personne qui est liée au tzadik parce qu'il a profité de sa Torah, ou de sa avoda, ou de sa tfila, ou d'une bracha d'un tzadik, toute personne qui a profité un jour d'une bracha d'un tzadik, ou du travail ou quelque chose, quand le tzadik il monte, c'est le tzadik qui le tire avec lui. D'accord? Plus on est proche du tzadik, et plus on est prioritaire, et plus on peut monter. Voilà ce qu'avec ça on a fini la lettre. Je suis allé un peu vite parce que je voulais juste expliquer les points.
C'est bien ce que c'est. D'accord? Et toi, c'est bien ce que...
C'est...
C'est au même titre que le soleil est lui-même une étoile.
D'accord. Bon, c'est pas grave.
Les étoiles, on les voit pas quand il y a le soleil. Les étoiles, on commence à les voir lorsque le soleil se cache.
Non, on les voit simplement parce qu'il y a une pollution qui fait que nous, on ne voit pas. Mais ils sont là, c'est comme la lune.
Mais quelque part, une étoile, une révérence, quelque part, c'est là où commencent les étoiles.
C'est là que exactement.
C'est sorte de l'ordre du million, voilà, la fusion, machin. L'étoile, c'est pareil que le soleil.
Ah, le soleil est une étoile, c'est ça.
D'accord, donc en gros, voilà les trois points qu'on a pu expliquer dans ce chapitre. Premier point, que étant donné que la vraie vie d'un tzadik, c'est Emouna, Ira et Ahava, ces trois points sont toujours aussi là après le départ du tzadik, et encore plus qu'avant. Seulement, c'est difficile pour nous d'y croire, mais c'est comme ça. Et ça, le tzadik est encore moins limité qu'avant, parce qu'il n'est pas limité par un style spécifique, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. J'en ai rajouté aussi que, étant donné que pourquoi on donne on accorde une importance particulière au kever du tzadik, parce que sur le kever du tzadik, c'est là que il y a son corps. Et étant donné que son corps a véhiculé beaucoup de kdusha pendant sa vie, la kdusha ne s'en va pas de sa place. Et on a rajouté un troisième point, c'est que le jour de la iloula du tzadik, ce jour-là, c'est tout le travail du tzadik qui monte. Donc toutes les brachot qu'il a données, toute la Torah qu'il a enseignée, chaque personne, tout ce qu'il enseignait, tout ce que le tzadik a pu entraîner, par ses élèves, et par les élèves des élèves, et les élèves des élèves, tout ça, le jour de la iloula du tzadik, le tzadik, il tire tout ça vers le haut. Il monte d'une gamme. Et quand il monte d'une gamme, tout ça monte chez Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle le jour de la iloula, c'est un jour spécial. Donc pour le rabbi, comme je vous dis, je pense que c'est pratiquement tout le Ham Israël qui monte en même temps que le rabbi le jour de Gimel Tammuz. Voilà. Là. Alors la semaine prochaine, semaine prochaine, je suis pas sûr que... normalement, on fera court. Je tiens au courant parce qu'avec le Gan Israël, je suis pas encore sûr. Et Bezrat Hashem, normalement, on fera court. Si on fait court, on fera la lettre 26 qui parle sur... C'est la lettre 26 ? Qui parle... C'est la lettre 25 ou la lettre 26 ? Qui parle sur la colère. D'accord ? Sur le cas. Il parle sur la gravité de la colère. Et il donne des techniques comment... Sur la... Très intéressant comme la tête. Ouais. Voilà. Tout le monde est concerné par ça.